Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Attention, cette série parle de drames humains. Il est donc possible que certaines scènes heurtent votre sensibilité.
Je me souviens que j'étais avec Flavio, donc le photographe à bord, et je lui ai demandé de prendre des photos. Je lui ai demandé de documenter ce qui se passait et de compter les personnes et qu'on puisse porter aux yeux du monde ce qui venait de se passer. Le souci derrière, c'est que on s'en est bien rendu compte par la suite. Les images n'ont que très peu fait le tour. Ça a été très peu médiatisé, ce naufrage.
Le 22 avril 2021, quelques heures après la découverte de l'épave et de ses 130 naufragés décédés, Morgane a fait ce qu'elle fait après chaque opération de l'Ocean Viking en mer. Elle a relayé l'information.
Aujourd'hui, après des heures de recherche, notre pire crainte s'est réalisée. L'équipe de l'Ocean Viking a dû assister aux conséquences dévastatrices du naufrage d'une embarcation pneumatique au nord-est de Tripoli. Cette embarcation avait été signalée en détresse avec environ 130 personnes à bord mercredi matin. Au cours des
dernières 48 heures, ce communiqué de presse, elle l'envoie avec des images du drame à plusieurs dizaines de rédactions françaises avec qui elle est en contact. Elle le publie aussi sur les réseaux sociaux de SOS Méditerranée dans la soirée.
Toutes se trouvaient à au moins 10 heures de notre position au moment de la réception des alertes.
Après avoir vérifié l'information, l'AFP, l'agence France Presse, rédige une dépêche. Un court article d'environ 400 mots qui va être repris dans les heures qui suivent par plusieurs sites d'infos, comme ceux du Parisien, de Libération ou du Monde. La seule journaliste à bord de l'Ocean Viking ce jour-là va aussi diffuser la nouvelle du naufrage sur d'autres sites de presse écrite, sur France 24 et puis sur France Culture quelques semaines après. Mais ce naufrage ne fera jamais les gros titres, ni dans les journaux papier, ni à la radio, ni dans les JT. Comment expliquer que la mort en mer de 130 personnes ne fasse pas plus de bruit? Et surtout, comment l'expliquer qu'en 8 ans auparavant, le traitement de ce genre d'événement en Méditerranée s'apparentait plutôt à ça?
Depuis le début de l'année, 25 000 clandestins ont débarqué sur les côtes italiennes, trois fois plus qu'en 2012.
La baie des Lapins, au sud de Lampedusa.
Le plus grand cimetière marin du monde, disent les gardes-côtes.
Les recherches se poursuivent au large de l'île de Lampedusa après le naufrage d'un bateau transportant.
L'embarcation a pris feu et les 500 personnes qui étaient entassées à bord ont paniqué, ce qui a provoqué le chavirement du bateau.
Pourquoi est-ce que ces naufrages sont devenus une banalité médiatique? Est-ce à cause de leur répétition? Est-ce une question d'agenda politique, de part d'audience, ou une tendance collective à détourner le regard? Je suis Sinamir, et vous écoutez le troisième épisode du Naufrage.
Il y a un silence assourdissant autour de ces morts.
Le sujet, c'est aussi de les raccompagner, mais les raccompagner où?
Vous les ramener en Libye?
Vous avez des enfants, des femmes enceintes, qui meurent devant nous. Et on s'en fout, on n'en parle pas.
On voit deux mains se lever depuis le centre de l'embarcation avec un couffin dans les bras, quoi.
C'est ça qu'il faut bien comprendre. On n'est pas devant un phénomène qui va s'arrêter.
C'est une réalité dont on est tous coupables.
Réalité terrible.
Oui, mais dont on est tous coupables.
Épisode 3. Le silence.
2, 1, 0. En avril 2021, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, je travaillais en tant que reporter pour RTL, l'une des premières radios de France. Quelques heures après le naufrage, on a reçu le communiqué faisant état de la catastrophe. Mais on n'en a pas parlé. Parce qu'à ce moment-là, comme pour la quasi-totalité des grands médias français, C'est une autre information qui faisait la une.
Autre titre, ce soir, à mille lieues de nous et de cette...
Le décollage de Thomas Pesquet pour la Station Spatiale Internationale.
Il est en orbite, lui et ses trois compagnons de la mission Alpha sont toujours à bord de la fusée de SpaceX. Ils ont décollé ce matin à 11h49.
Et même si on avait évoqué le naufrage avec mes chefs de l'époque, on avait décidé qu'on n'avait pas assez de place à l'antenne pour le traiter correctement.
Ils y resteront 6 mois, image d'une parenthèse enchantée.
Cette place, on l'a eue en fait plus d'un mois après.
Bonjour, Sinamir.
Bonjour à tous.
Grand reporter à la rédaction d'RTL, vous connaissez bien SOS Méditerranée. Vous avez même embarqué sur leur bateau lors de leur mission dans le passé. Et la dernière en date au mois d'avril cette année a été particulièrement éprouvante.
Oui, parce qu'on parle souvent des rescapés. Il y en a eu encore...
Le 29 mai 2021, j'ai même obtenu 8 minutes dans le journal du samedi midi. 8 minutes dans un journal radio, c'est extrêmement long. Mais la vérité, c'est que si j'ai pu les obtenir, c'est parce que l'invité du jour avait exigé qu'on parle des naufrages en Méditerranée. C'était la formule de cette émission présentée par Ophélie Meunier, une personnalité invitée décidée de certains sujets. Et ce jour-là, l'invité c'était Marc Lévy, l'écrivain qui a vendu 50 millions de livres.
Marc Lévy, dans votre dernier livre, Le Crépuscule des Faux, vous abordez aussi la situation des réfugiés dans le monde. Une de vos personnages, Maya, est recueillie dans un campement de fortune à la frontière grecque. Se trouvent là des réfugiés, pour la plupart venus de Syrie. Et ils s'appellent eux-mêmes les Invisibles. Ce témoignage, ces paroles sont bouleversantes. Vous souhaitiez mettre un peu de lumière sur ces invisibles, Marc
Lévy. C'est pas terrible, c'est une réalité dont on est tous coupables.
Mais réalité terrible.
Oui, mais dont on est tous coupables. Et dont on est tous responsables, à la fois en tant qu'émetteurs et à la fois en tant que consommateurs. Pourquoi cette indifférence et ce mépris? Cette indifférence de la presse, cette indifférence des journalistes, cette indifférence des politiques, cette indifférence des intellectuels, cette indifférence de tous ceux qui ont la chance de pouvoir parler, oui, ça c'est une prise de risque.
Au final, avec ces 8 minutes, le sujet aura bénéficié d'à peu près une heure de temps médiatique en France. Un peu plus en Italie, mais rien à voir avec les dizaines d'heures cumulées dans le monde entier sur un autre naufrage 8 ans plus tôt. Celui du 3 octobre 2013, au large de l'île de Lampedusa. Ce naufrage de Lampedusa qui a fait 366 morts en 2013, c'était pas le premier en Méditerranée. Mais c'est celui qui a marqué une prise de conscience. Ce chalutier transportait principalement des personnes originaires de Somalie et d'Érythrée, deux pays en guerre. Et par son bilan très lourd, il a fait le tour de tous les médias internationaux.
Uno tras otro se van colocando los cadáveres en el puerto, reflejo de la magnitud de esta tragedia.
È una verità scomoda quella dietro le immagini girate l'11 ottobre, le più drammatiche forse.
Auch am Tag nach der Tragödie gehen die Rettungsarbeiten vor der italienischen Insel Lampedusa weiter. Das gesunkene
Boot. Moi en 2013, je venais tout juste d'être embauché à la radio. Et ce naufrage, je l'ai vécu à distance. Mais j'ai plusieurs collègues et amis qui l'ont couvert.
Je pars, je crois que j'ai plus les dates précises en tête, je crois que c'est début octobre 2013, le drame, et on part dans les 2-3 jours qui suivent parce qu'on veut être là pour la cérémonie avec les officiels italiens.
Étienne Huvert en fait partie. Étienne, c'est ce qu'on appelle un grand reporter indépendant. Ça veut dire qu'il travaille pour plusieurs médias différents qui achètent ses reportages et ses documentaires télé. En 2016, il a même gagné le prestigieux prix Albert Londres pour son travail en Syrie avec sa collègue Sophie Nivelle-Cardinal. Et à l'époque du naufrage de Lampedusa, il faisait partie des centaines de journalistes venus couvrir le sujet sur cette petite île italienne au large de la Sicile.
C'est pas un bon souvenir pour moi, c'est un souvenir très, très difficile parce que quand on est journaliste, on a envie de raconter. Et quand on n'arrive pas à le faire, c'est un sentiment d'échec et on n'a pas envie de garder ça en tête. Notre but, c'était d'être là pour la rencontrer du monde, comprendre un petit peu ce qui se passe sur l'île, sentir les choses et puis éventuellement trouver des proches de ces victimes parce qu'il y a beaucoup d'Érythréens qui vivent ici. Ces gens... ils sortent pas de nulle part, ils ont des familles parfois en Europe. Et donc, il y avait énormément de familles qui venaient pour essayer de comprendre ce qui s'était passé autour de ce drame. Il y a des dizaines de journalistes, et il y a des journalistes qui viennent de l'Europe entière. Donc, c'est une concentration de journalistes qui est très importante sur une toute petite île. Ça, c'est sûr que Lampedusa, c'est un caillou. Il y avait à l'époque le camp qui était là au milieu de l'île, donc tout le monde tournait autour. Les gens se retrouvent dans la rue. Voilà, les journalistes sont là, on croise les réfugiés, la population est agacée par ça, et c'est pas un climat et un contexte qui est très favorable. Et en fait, on était confronté à une autre difficulté que j'avais pas mesurée en partant. C'est qu'on ne manquait pas d'informations, on ne manquait pas de journalistes, il y en avait presque trop à ce moment-là, et en Sicile et à Lampedusa. Et du coup, il y avait une espèce de compétition effrénée entre journalistes. Il aurait fallu que je réussisse à rester peut-être plus longtemps, attendre que tous ces journalistes partent, et réussir à ce moment-là à trouver les personnes avec lesquelles je pouvais rentrer en communication. Du coup, on s'est retrouvés sans témoin, dans une difficulté très importante pour travailler, et on a décidé d'arrêter ce projet.
La plupart des journalistes présents à ce moment-là sur l'île sont ce qu'on appelle des journalistes de news. Ils traitent l'actualité immédiate. Lampedusa en 2013, c'est le moment d'une prise de conscience européenne des naufrages en Méditerranée.
Lampedusa, c'est la découverte que des individus vont fuir de ces régions en guerre et vont vouloir traverser avec des embarcations et sous des formes qui ne sont pas forcément celles que nous avions anticipées. Comment un chalutier peut-il accueillir autant de personnes à bord? Comment il a pu dériver? Comment il a pu sombrer? Et ce que ce choc d'un grand nombre de victimes peut produire? Sur l'opinion, il a produit le choc de toute catastrophe sans comprendre ce qui avait produit ce drame et ce qui allait suivre. C'est-à-dire qu'il a été pris comme un accident, alors que ce n'est plus un accident, c'est le symptôme de ce qui va, pendant des années, encore aujourd'hui, se révéler en Méditerranée.
Ce choc que François Hollande décrit, on appelle ça en journalisme l'effet de blast. C'est l'onde de choc qui accompagne un fait inédit. Et des ondes de choc, il va y en avoir plusieurs en Méditerranée. En 2015, près de 1000 personnes trouvent la mort sur un autre chalutier au large de la Libye. C'est le pire bilan humain jamais enregistré.
Al nord de la Libia, praticamente accanto davanti alla Libia, anche stanotte, anche stamani mattina, i numeri sono ancora provvisori, ma sono destinati a salire. Al momento sono 28 morti, ma saranno molti di più.
La plus grande catastrophe en Méditerranée depuis la Seconde Guerre mondiale devient alors un feuilleton médiatique. Le premier ministre socialiste italien, Matteo Renzi, fait même de cette épave un totem. Il dépense jusqu'à 10 millions d'euros pour la sortir de l'eau et exposer sa carcasse bleue délavée aux yeux du monde entier. L'année d'après, en 2016, le nombre de morts totales en Méditerranée frôle les 5000 personnes, un record annuel. Alors partout, on parle à nouveau des naufrages. C'est d'ailleurs le moment où je suis monté sur l'Aquarius, le premier bateau d'SOS Méditerranée.
À bord, plus de 130 femmes et hommes luttent au large des côtes libyennes sur ce pneumatique blanc où l'eau se mélange à l'essence après 6 heures de traversée.
Ce qui fait parler à ce moment-là, c'est pas seulement cette escalade de chiffres. Il y a une autre nouveauté. La présence des ONG en mer. Et pouvoir aller sur les bateaux des ONG, c'est pouvoir proposer un angle inédit sur le sujet. On peut constater directement les conditions dramatiques de ces tentatives de traversée. On peut parler des sauvetages et des naufrages. Et on peut surtout recueillir les témoignages de ceux qui tentent ces voyages au risque de leur vie, avant qu'ils ne soient dispersés, renvoyés ou pour certains arrêtés.
Je vous en suis, tout le monde avait peur. Et surtout les filles, elles pleuraient. Je les ai dit, ne pas se calmer, c'est Dieu qui est fort.
Mais avec la crise migratoire de 2015, c'est pas que l'angle qui va changer le traitement médiatique. C'est aussi le discours politique. À mesure que les agendas des élections ou des référendums européens va rythmer les prises de parole, notamment dans les 5 pays qui valident le plus de demandes d'asile à l'époque. Dans l'ordre, l'Allemagne, la Suède, l'Italie, la France et le Royaume-Uni. Dans les médias, ceux qui vont faire du sujet migratoire leur premier thème de campagne, ce sont les populistes d'extrême droite.
Bah écoutez, je pense que les Français se réarment psychologiquement et notamment en récupérant en grande partie une lucidité sur la situation de vulnérabilité du pays.
À moins de 2 ans de la présidentielle, un événement particulier va concrétiser la menace proférée par l'extrême droite française depuis des mois, à la télé ou à la radio.
Sur France Inter.
Le zoom de la rédaction nous replonge dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre. On sait aujourd'hui avec certitude qu'au moins 2 des terroristes qui ont frappé la capitale ce soir-là s'étaient mêlés à un groupe de réfugiés pour rentrer en Grèce. Bonjour Élodie Guéguin.
2 terroristes sur les 8 kamikazes des attentats du 13 novembre ont traversé la Méditerranée au milieu des centaines de milliers de personnes qui ont fui la Syrie en un an, comme l'explique France Inter.
Daesh possède une réserve de plusieurs milliers de vrais faux passeports. Pourquoi vrais faux, me direz-vous ? Eh bien parce que ce sont des documents authentiques sur lesquels...
Les traversées en Méditerranée deviennent petit à petit un enjeu sécuritaire, en plus d'être un enjeu humanitaire dans de nombreux médias. Et ça ne se limite pas à la France.
C'était il y a précisément un an, Angela Merkel ouvrait largement les portes de l'Allemagne aux réfugiés. La chancelière est-elle en train de payer aujourd'hui dans les urnes ?
L'Allemagne a accueilli près de la moitié des 360 000 réfugiés en Europe en 2015. Elle voit les nationalistes de l'AFD gagner les élections régionales de 2016 après avoir fait campagne contre l'immigration.
What we want to do is to change our relationship with the European Union, take back control of our borders.
Au Royaume-Uni, le camp du Leave va lui aussi imposer la question migratoire au sein du Brexit. Les populistes mélangent ceux qui traversent les mers pour se sauver et les 300 000 ouvriers européens qui demandent un permis pour travailler cette année-là. En Méditerranée, c'est en Italie que les attaques vont être les plus directes. Un député européen d'extrême droite va même faire des sauvetages son marche-pied jusqu'au sommet du gouvernement italien. Matteo Salvini est celui qui dénonce le business des immigrés et les ONG qui se frottent les mains pendant que des délinquants et des terroristes potentiels débarquent en Italie.
Ma ho l'impressione fra sorrisi, complimenti, applausi che ci sia qualcuno che ricorda l'orchestra che suonava sul Titanic prima che la barca affondasse.
Les cibles dans les médias italiens comme ailleurs en Europe sont les mêmes. Les populistes accusent les ONG d'être des taxis de la Méditerranée et Salvini compare l'Union européenne à l'orchestre du Titanic qui continue de jouer pendant que le bateau coule.
Il problema non è il populismo, il nazionalismo, la xenofobia, il razzismo. Il problema numero uno in questo momento è il terrorismo islamico e la disoccupazione che sta portando i popoli a reagire.
C'est sur ce discours médiatique fait d'argumentation parfois sans preuve qu'il gagne les élections au Parlement italien de 2018. Salvini devient ministre de l'Intérieur. Il referme les ports italiens. Et le nouveau feuilleton politique des blocages de bateaux en Méditerranée s'impose dans la plupart des médias.
Il y a eu un moment qui a été décisif. C'est ce moment où l'extrême droite a pris le pouvoir en Italie et que tous les bateaux des sauveteurs qui opéraient dans cette zone large de la Libye depuis des années n'avaient plus la possibilité de le faire. Et on a vu notamment un bateau qui était très connu en France qui s'appelait l'Aquarius, qui s'est retrouvé à quai à Marseille.
Outre blocage en mer Méditerranée, le bateau Aquarius, lui, n'arrive pas à accoster. Il a sauvé 141 migrants de la noyade au large de la Libye. Mais comme en juin dernier, l'Italie et Malte refusent d'accueillir ce navire humanitaire, en France, le port de Sète propose son aide, mais doit obtenir la...
S'il n'y a plus de bateaux dans cette zone, ça veut dire que nous, les journalistes, on n'est plus là non plus pour raconter ce qui se passe. On est dans l'incapacité de montrer le fait qu'il y a encore des gens qui quittent la Libye et dont on ne sait absolument rien. Et on n'est même pas sûr qu'ils arrivent de l'autre côté de la Méditerranée ou qu'ils ne meurent pas en mer. Vous voyez, donc il y a toujours ce trou noir d'information qui nous a paru très important d'essayer de combler. C'est la question qui se pose à ce moment-là, c'est le printemps 2019.
Pendant que le bras de fer imposé par l'Italie et Salvini monopolise la couverture médiatique, Étienne Huvert et un de ses collègues, Jean-Baptiste Renaud, s'accrochent à leur idée de documentaire.
Et donc on se dit, la mer c'est peut-être un peu compliqué, mais on trouve un pilote un peu dingue, mais vraiment incroyable, qui a monté une association qui s'appelle Pilote Volontaire, et qui vole dans un avion qui s'appelle le Colibri. Il survole toute cette zone avec son avion, le Colibri. Il essaye de trouver des bateaux de migrants et d'essayer de documenter, de comprendre ce qui se passe dans cette zone. Est-ce qu'ils ont été repoussés par les gardes-côtes libyens? Est-ce que les avions des Européens suivent la situation? En fait, ils survolent des bateaux. Il y a plusieurs centaines de personnes à l'intérieur. Et les bateaux sont à la dérive. On voit même à un moment donné qu'il y a un des flotteurs qui commence à se dégonfler. Donc, et puis quand on est dans les airs, le carburant est limité. Donc on peut rester peut-être quelques heures, 2-3 heures. En même temps, on est au large de la Libye. On voit la côte libyenne, on voit des panaches de fumée parce que le pays est en guerre. Et donc on voit qu'il quitte une situation qui est quand même hors norme. Et quand on quitte le bateau, ben on ne sait pas ce qu'il advient. Et quand le lendemain, on n'a jamais de nouvelles et qu'on essaye de savoir et qu'on ne sait pas, on peut imaginer le pire. Soit les gardes-côtes libyens les ont ramenés, mais ils les ont ramenés en Libye dans un pays en guerre, soit ils sont morts en mer. Autant on a vu beaucoup d'images de bateaux de migrants les dernières années, mais sur l'espace des 6 derniers mois, on n'en a vu aucun, nulle part. Et on se dit, on a une image qu'il faut qu'on montre rapidement, il faut qu'on montre aux news. Et ils ont répondu tout de suite présent. Ils avaient un scoop, et c'est pas un gros mot de le dire, c'était un scoop. Et ils ont été très heureux de le diffuser.
En effet, en 2019, au moment où la Libye gère le contrôle de sa zone de sauvetage, au moment où les ports européens sont fermés à double tour par Salvini et ses voisins, où les bateaux des ONG sont taqués et qu'il n'est plus possible de savoir ce qu'il se passe en mer, Étienne et Jean-Baptiste ont le scoop que des bateaux continuent de partir et que leurs occupants sont toujours prêts à risquer leur vie pour rejoindre l'Europe.
Mais pour nous, ça ne s'arrêtait pas à cette image. On s'est vraiment dit qu'il y avait quelque chose à faire aussi en Libye, qu'il fallait comprendre d'où venaient les gens. Et on a eu cette volonté et cette démarche d'essayer de documenter tout ça par la mer, par les airs et par la terre. Il y a des chaînes qui nous ont répondu non parce qu'on a déjà traité ça, qui nous ont dit « Ah ben oui, mais on est déjà monté sur l'Aquarius il y a 3 ans ». Bon, là, la situation était différente. Il y avait l'extrême droite et Matteo Salvini au pouvoir. Donc, la situation avait changé. C'était intéressant de redocumenter. Mais non. Ou alors, on nous a aussi dit, on a fait ce sujet aux États-Unis sur la frontière mexicaine. Là, on est un peu plus loin. Et c'est vrai que c'est pour nous, quand on fait du terrain, un peu plus compliqué et difficile à entendre.
Après plusieurs tentatives, Étienne et son équipe finissent par capter l'attention d'une des principales chaînes de télévision qui achètent leur projet de documentaire.
Sur ce coup-là, ils nous ont dit très clairement dès le début, les sujets sur les migrants, ça ne marche pas, mais c'est pas grave, ce sujet-là, on ne l'a pas fait, et donc il faut qu'on le fasse, parce que c'est important de le faire quand même. Et donc, ils ont pris ce risque-là, en sachant qu'ils ont d'autres émissions qui marchent bien. On a un rédacteur en chef qui nous dit très clairement, il faut faire ce sujet. Et on va le faire avec vous, on vous fait confiance. Donc finalement, c'était parti. Et le pari, c'était de réussir à aller derrière en Libye et d'essayer de comprendre au mieux le fonctionnement de ce pays et de pourquoi les migrants sont bloqués et torturés et se retrouvent dans cette situation.
What are your conditions here? It's okay?
No. I ate one bread in one the whole day.
Alors il y a des camps clandestins, il y a des camps qui sont officiel, et on a réussi à rentrer dans le camp.
You are here for a long time?
Around 1 year.
1 year?
Yeah.
Il y avait une prise de risque évidente, mais on avait quand même posé des jalons suffisamment importants pour donner des garanties et se dire que le projet allait marcher.
Étienne Huvert et Jean-Baptiste Renaud font partie des rares journalistes à avoir réussi à faire entrer une caméra dans un camp de détention libyen, où ils ont documenté la pratique d'actes de torture et de violence à l'égard des personnes détenues. Leur film « Méditerranée, le cimetière des réfugiés » sera finalement diffusé le 5 juillet 2020 à la télévision.
Je crois qu'on devait être autour de 700 000 spectateurs à 23 heures. C'est bien, mais ce n'est pas une grosse audience. Voilà, c'était début juillet, c'était le début de l'été. Entre-temps, il y a eu une pandémie, il y a eu le Covid, et du coup, ça avait complètement changé les choses, avec peut-être moins d'appétence pour le public à essayer d'avoir ces choses-là, y avoir ces difficultés-là et avoir la difficulté des migrants qui arrivaient en Europe. Au final, même si l'audience n'a pas été au rendez-vous, on touche un public qui ne connaît peut-être pas ces problématiques-là, et ça, c'est très important. Donc, c'est pas qu'une question d'audience pour nous, c'est déjà le fait de réussir à mettre le sujet à l'antenne, c'est déjà quelque chose de très fort et de très important. L'info va très vite aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé le journalisme, on pouvait des fois rester 3-4 jours sur une même histoire s'il y avait quelque chose de très grave. On pouvait documenter en longueur. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Une info chasse l'autre et c'est sans doute ce qui est compliqué sur ce dossier-là. C'est-à-dire que ça continue et en fait, ça continue tout le temps. Et si on voulait bien faire notre métier, tous les jours, on devrait avoir un reportage sur les centaines de morts qui ont pu avoir lieu, voilà, ou peut-être pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours. Et ça, ce travail-là, c'est vrai que on le fait pas, ou les médias ont beaucoup de mal à le faire de la bonne façon. Alors, est-ce que c'est à cause des chaînes et des rédacteurs en chef? Peut-être. Est-ce que c'est à cause des journalistes qui vont sur le terrain, qui n'arrivent pas à bien raconter les choses? Peut-être aussi. Ou peut-être que c'est aussi un problème politique, et peut-être plus aussi un problème politique. Et le pouvoir politique ici, notamment en France, n'a peut-être pas envie de s'approprier ces questions-là. Et puis derrière ça, il y a peut-être aussi un problème avec les spectateurs qui n'ont peut-être pas envie de regarder ça. Et quand on voit les audiences, justement, on peut se poser la question, et chacun doit se poser la question, est-ce qu'on a envie de voir ça? Est-ce que, souvent, c'est peut-être plutôt non. Et des sujets qui demandent des efforts, c'est-à-dire que c'est aussi aux spectateurs, c'est aussi aux lecteurs des journaux de faire l'effort de s'intéresser. Et c'est à tout le monde de faire l'effort de s'intéresser à comprendre ce qui se passe, parce que ce qui se passe, c'est dramatique.
Silence, mépris, endormissement, c'est terrible, t'entends tout ça, Marc.
C'est pas terrible, c'est une réalité dont on est tous coupables.
Mais réalité terrible.
Oui, mais dont on est tous coupables. Et dont on est tous responsables, à la fois en tant qu'émetteur et à la fois en tant que consommateur. Il s'est produit hier un événement dramatique.
Après les responsabilités politiques et médiatiques du silence qui a suivi le naufrage du 21 avril 2021, c'est la dernière qu'on n'a pas évoquée. Notre responsabilité en tant que spectateur.
Il y a un silence assourdissant autour de ces morts, parce que probablement, nous n'avons pas envie de voir collectivement ce qui se passe aux portes de l'Europe et que l'omerta règne.
En mai 2021 sur RTL, avant l'écrivain Marc Lévy, la cofondatrice d'SOS Méditerranée, Sophie Beau, interpelle sur cette indifférence, celle qui nous fait zapper ce type d'informations dramatiques et fermer les yeux sur sa portée et les enjeux qu'il y a derrière.
Si c'était un avion qui s'abîmait en mer Méditerranée ou si c'était un navire avec des touristes, on aurait eu la presse du monde entier sur lieu et on aurait eu une opération de recherche de grande envergure. En fait, au lieu de cela, rien, seulement quelques voix qui s'élèvent, comme celle du pape, pour dénoncer cette situation, ce mépris, cette indifférence, cet endormissement des consciences, et qui est effectivement fatal et qui est aussi un renoncement à nos valeurs fondamentales européennes que nous avons l'habitude de proclamer comme les valeurs fondamentales de l'Europe.
C'était vraiment de la colère, en fait, et de l'incompréhension par rapport à une inhumanité qui font que les vies ne comptent plus autant. Remettons-nous dans le contexte. On parle du 21-22 avril 2021. On sort d'une année de pandémie où le leitmotiv, ça a été « il faut sauver des vies ». Sauver des vies n'a pas de prix. Quoi qu'il en coûte, on va aller sauver des vies. Du Covid-19 dans notre pays. Mais en Méditerranée, donc ces mêmes vies, elles ne comptent pas. Donc on était vraiment sur cette double mesure, finalement.
Aujourd'hui, Sophie Beau est toujours à la tête de l'ONG. Ce deux poids deux mesures qu'elle continue de pointer me fait penser à deux facteurs psychologiques qui peuvent influencer un média dans le choix des sujets qu'il traite. D'abord, la distance émotionnelle qu'on peut mettre, nous, face à des situations trop dramatiques, ce qui nous ferait zapper au moment de regarder, d'écouter ou de lire, parce que c'est trop trash. Et ensuite, le fait qu'on s'identifie plus facilement au drame qui pourrait nous toucher directement. C'est même une loi en journalisme. La loi du mort-kilomètre. Plus un drame survient proche de nous, plus on va tendre l'oreille.
On ne veut pas en entendre parler. En fait, c'est plus pratique de ne pas voir tout ça. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Et en fait, c'est cet aveuglement volontaire de l'Europe. C'est vraiment insupportable. C'est vraiment insupportable parce que quand nous avons commencé nos opérations en 2016, à l'époque, il n'y avait pas encore de navires de sauvetage présents sur la mer. Et donc, effectivement, quand en 2013, il y a eu le naufrage devant Lampedusa, c'était exceptionnel d'habitude, on ne voyait pas, on n'entendait pas. Et comme il n'y avait pas de navire de sauvetage civil, il n'y avait pas non plus de journalistes qui documentaient. Parce que bien sûr, on ne montait pas à bord des navires de la marine italienne facilement, et des autres opérations européennes qui pouvaient avoir lieu dans la zone. Donc il n'y avait pas de documentation, il n'y avait pas la société civile présente pour voir ce qui se passait en mer Méditerranée. Mais depuis 2016, que ce soit sur l'Aquarius, sur l'Ocean Viking ou sur les autres navires de sauvetage, ce sont des centaines de journalistes qui sont montés à bord, qui ont fait des reportages. Radio, télé, presse écrite. Donc on sait ce qui se passe. Et d'ailleurs, en avril 2021, il y avait une journaliste à bord aussi. Donc tout a été documenté. On le sait, c'est juste qu'on ne veut pas le voir et on ne veut pas l'entendre. On ne veut pas parce que ça pose la question, la même question, qui est celle pour laquelle nous avons finalement créé SOS Méditerranée. Que fait l'Europe face à cette tragédie aux portes de l'Europe ? Il n'y a pas de réponse coordonnée des pays de l'Union européenne face à cette tragédie. Et ça fait 7 ans que ça dure depuis que nous sommes créés, mais c'était le cas déjà depuis le début des années 2000. Donc, on est face à un aveuglement volontaire parce que ça pose des questions qu'on considère trop politiques et sur lesquelles les pays européens n'ont pas le courage de se poser. Et je pense que l'aveuglement politique et le manque de courage est criminel quelque part. On laisse mourir des gens. Sciemment, on sait que ça se reproduit, que ça va se reproduire, et que tant qu'il n'y a pas des moyens de sauvetage, et tant que les réseaux de traite continuent à affluer vers la Libye, ça ne cessera pas. Navire de sauvetage ou pas, en face. Mais c'est extrêmement violent. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas d'assistance, il y a un déni d'assistance, mais en plus, on leur dénie même leur mort. C'est indigne de constater que non seulement on n'a pas pu éviter ce naufrage, mais qu'en plus, ces morts ne comptent pas, finalement. Et pourtant, on parle de 130 morts. Donc moi, ma question, c'est il en faut combien, des morts ? C'est à partir de 1300, de 13 000 ou de 130 000 qu'on va pouvoir... il faut multiplier par combien pour que 130 morts qui quittent la Libye, donc on peut imaginer que ce sont des migrants d'origine d'Afrique subsaharienne, un peu du Moyen-Orient... peut-être des Bangladais, on ne sait pas, on ne saura jamais d'ailleurs qui était à bord. Il en faut combien pour que ça émeuve l'opinion publique et que ce soit repris par les médias ?
La difficulté, c'est peut-être aussi celle-ci. Comment on fait pour parler de gens dont on ne connaît même pas les noms ? Comment on fait pour raconter l'histoire de personnes qui viennent d'un pays lointain et sur lesquelles on ne peut même pas mettre de visage ? Pour faire entendre ces destins engloutis par la mer, dont la seule trace qui subsiste est un appel de détresse. La semaine prochaine, retrouvez le 4e épisode du Naufrage, une série originale du podcast L'Affaire que j'ai écrite avec Suzanne Collin et qui est réalisée par Adrien Leblanc.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.